Bonjour ou bonsoir, chers auditeurs. Bonjour selon l'heure à laquelle vous nous écoutez en direct ce mercredi après-midi ou en différé demain à 23h sur notre chère Radio Courtoisie. Et j'ai le grand plaisir d'avoir aujourd'hui deux de mes amis, de mes vieux amis. Alors il y en a un qui me fait faux bon, ça se fait quelquefois entre faux amis, mais nous l'aurons au téléphone, c'est Nicolas Dupont-Aignan qui devait venir, mais enfin il n'a pas pu, il est très pris par la sortie de son livre qui s'appelle 2027, la liberté ou la mort. De toute façon, je le montre à la caméra, il est déjà venu plusieurs fois sur Radio Courtoisie, c'est bon signe, je pense que son livre a un bon accueil, et nous l'aurons tout à l'heure dans une demi-heure. Mais j'ai un autre ami qui, lui, est là en chair et en os, c'est une grande réjouissance, c'est Édouard Husson, nous sommes connus, je crois, pratiquement entre les deux guerres, enfin, on est toujours entre deux guerres d'ailleurs. Mais
oui, il y a tellement de guerres maintenant, c'était entre deux guerres.
Michel Pinton et
François-Xavier de Guibert, l'éditeur.
Vous aviez édité avec Michel Pinton, si ouais. On dira quelque chose plutôt plus ancien. Une histoire de France qui m'avait vraiment impressionné. Et nous avions une amitié profonde pour François-Xavier de Guibert que nous avons eu récemment au téléphone. Et puis nous ne nous sommes jamais quittés. Vous avez grandi beaucoup dans les sphères. Il y a deux faces chez vous. Hein. Il y a la face très très correcte. Vous avez été recteur, vice-président... Ouais. Vice-chancelier des universités, vous avez fait partie de divers cabinets ministériels. Et puis il y a l'historien en vous, parce que vous êtes d'abord un historien, qui n'a pas pu s'empêcher de faire de l'histoire et de comprendre l'histoire présente. C'est-à-dire de foncer dans le complotisme.
Et d'écrire des choses qui ne plaisaient pas forcément aux gens que je croisais dans les cabinets ministériels.
Oui, donc ça, je pense que ça n'a pas dû plaire, notamment vos ouvrages terribles sur l'Allemagne, le nazisme, la Shoah par balles. Qui était tout de même une façon de sortir un peu des sentiers battus sur le nazisme. Et vous accabliez...
Oui, alors, et encore ça, par effet de mode et de snobisme des milieux dirigeants, ça a été accepté. Mais en revanche, quand j'ai dit que l'amitié franco-allemande, ça n'existait plus depuis longtemps.
La preuve en a été faite quelques années plus tard. La preuve, alors, sous nos yeux.
Je le voyais, mais d'autres l'ont vu seulement un peu plus tard. Et puis, effectivement, on va reparler, je pense, des conflits actuels. J'ai une lecture un peu différente, pour pas dire très différente, de celle qui...
Il faut qu'on revendique le mot complotiste, parce que tout simplement, on comprend la politique des grands États, c'est tout. Et elle est faite de manigances, elle est faite de coups à long terme. Bah, et les décrypter, c'est entrer dans la compréhension de...
C'est-à-dire, on dit complotiste comme autrefois on disait fasciste ou réactionnaire. Voilà. Et puis on dit complotiste aussi parce que c'est une vision qu'on ne veut pas accepter. Mais effectivement, alors certains disent avec humour le complotiste a raison trop tôt.
Mais vous avez donné la preuve à multiples situations.
En tout cas, la réalité c'est qu'il n'y a pas beaucoup de complots dans l'histoire qui est réussi à part celui pour assassiner Jules César et quelques autres. Mais en revanche, il y a une trame des événements qui est sous l'apparence des choses et qui souvent s'appuie sur des facteurs de longue durée, pas seulement, mais et que beaucoup ne veulent pas voir. Je donne un exemple.
Faut sortir des apparences, tout simplement. Voilà. De ce qu'on ne veut pas voir.
Le 18 janvier, j'ai écrit un article sur mon blog Libre Propos dans lequel je disais que si les États-Unis et Israël reprenaient la guerre contre l'Iran qu'ils avaient interrompue en juin dernier, eh bien, ça serait une catastrophe militaire.
Alors, on m'a dit, le 18 janvier, voilà. 5 ou 6 semaines avant que ça s'avère.
Voilà. Et on m'a dit, vous êtes fou, bien vous êtes vendu au régime des Mollahs, ou bien je sais pas quoi. Il se trouve que j'avais simplement décortiqué ce qui s'était passé en juin 2025, derrière la surface des choses et la capacité qu'avait eu l'Iran à faire du mal militairement à Israël. Et donc, je m'étais dit...
Qui annonçait ce qu'on voit depuis longtemps.
Ça ne peut que se repasser comme ça, parce que je ne vois pas ce qui a changé du côté américain et israélien. Et voilà. Mais alors ensuite, est-ce que c'est être complotiste que de voir des choses sous l'apparence, sous l'écume? Je ne sais pas.
Alors, vous êtes aussi professeur des universités, c'est-à-dire que vous avez vraiment tous les attributs les plus académiques. Et en même temps, vous animez, on peut citer pendant très longtemps, vous faites le pilier du
Courrier des stratèges.
Courrier des stratèges.
Oui, oui, avec Eric Vérague. Oui, on a, pendant 4 ans, on a fait une bonne
Eric
équipe.
Avec Eric Vérague, et vous avez annoncé beaucoup de choses qui se sont encore une fois avérées. Maintenant, vous avez votre site et votre chaîne, votre blog et votre chaîne de télévision sur YouTube qui s'appelle l'une et l'autre Libre Propos.
Voilà, un seul nom, Libre Propos, mais vous pouvez me regarder sur YouTube et ou bien me lire sur la grande plateforme de blog Substack, ouais. Un blog qui s'appelle Édouard Husson, Libre Propos, voilà. Et j'y publie...
Je vous suis là-dessus, figurez-vous. Mais alors, vous me faites passer un temps fou, mais parce que vous êtes une... Pour productivité, on peut dire, extraordinaire. Presque tous les jours.
Oui, je fais 4 articles par semaine. Oui. Je fais 4 articles par semaine. C'est pour garder le rythme, mais c'est parce que l'actualité est trépidante aussi.
Vous vous rendez compte, si tous les professeurs d'université arrivaient à décrypter la réalité en sortant des apparences, comme vous le disiez à l'instant, là, pour le coup, l'intelligence française serait hors d'atteinte.
Je pense qu'il y a des tas de gens qui n'osent pas. D'abord, il y a une question de
courage.
Mais par ailleurs, j'ai toujours été... Alors, mon réflexe d'historien a toujours été de regarder ce qui s'était écrit au moment d'un événement. Et on s'aperçoit qu'il y a toujours...
Qu'on ne comprend pas.
Il y a toujours quelques personnes qui comprennent ce qui se passe.
Ah, et pas puis, la majorité. Ça.
Pas la majorité, mais ça c'est normal. Ouais. C'est comme dans l'histoire des sciences. Hein, les grandes découvertes scientifiques, c'est le fait d'une minorité, voire d'un individu. Ouais. Et puis après ça, il y a un oubli. Alors on élabore des tas de théories ou bien on tait ce qui s'est passé. Et puis une génération, 2 générations, 3 générations après ou des siècles après, on redécouvre que certains avaient compris les événements.
Bon, alors là vous les suivez de près parce que les premiers commentaires que j'ai vus, d'abord sur ce qui s'est passé en janvier à Téhéran, qui a été très grossi. J'ai l'impression que c'est toujours le même scénario, mais les médias le reprennent. C'est-à-dire que quand les États-Unis, en l'occurrence les États-Unis et Israël, on peut parler de cette connivence, à mon avis, elle est beaucoup plus profonde. Il y a des points de comparaison sans fin entre les deux destins, presque. Même tabula rasa, d'une certaine façon, même messianisme, et c'est même d'ailleurs à peu près le même messianisme, même adulation de la force, refus du droit, que ce soit l'Empire ou le sionisme, c'est pas étonnant qu'ils soient ligués. Bref, en tous les cas, ce qui est frappant, c'est qu'ils agissent toujours de la même manière. Le pays que l'on vise, on le déstabilise, ce fut l'Ukraine... avec Maïdan, il y a eu la déstabilisation de la Syrie, la déstabilisation de l'Irak, et notamment en racontant des bobards, et notamment en provoquant des émeutes populaires, mais très grossies, et puis après on en prend prétexte pour dire ce régime est terroriste, donc on le bombarde. Voilà, c'est à peu près toujours ce scénario.
Alors, effectivement, et là, c'est ce qui devait se passer pour l'Iran aussi, on s'est demandé s'il n'y a pas eu, en fait, un raté entre Israël et les États-Unis, parce que Trump, en fait, se heurtait à beaucoup de résistance interne pour lancer une deuxième guerre contre l'Iran, la première étant celle de juin 2025.
De 12 jours.
Et la guerre des 12 jours. Et donc, il aurait retardé. Et en fait, les Israéliens avaient déclenché les phénomènes de déstabilisation interne, mais les frappes américaines ne sont pas venues tout de suite. Ce qui aurait cassé les faits. C'est une thèse. Mais voilà. D'une manière générale, je pense qu'en fait, ça avait déjà été essayé au moment de la guerre des 12 jours. Et puis, par ailleurs, bien sûr, le Mossad est très, très fort. Bien sûr, il y a eu des plans de déstabilisation. Mais
interne
à l'Iran.
Aux structures étatiques de l'Iran,
voilà.
qui est assez pénétré certainement par le Mossad.
Mais je crois que la grande question, c'était si on compare à la Syrie, par exemple, si on compare à l'Irak aussi, c'était de savoir dans quelle mesure les milieux dirigeants étaient corruptibles. Parce qu'en fait, quand on regarde ce qui s'est passé en Irak, les généraux de l'armée irakienne ont été achetés. C'est ça, c'est comme ça que là.
Beaucoup, certains, oui. Enfin.
La guerre s'est finie si rapidement. Même chose en Syrie, il n'y a pas eu de combat en 2024.
Oui, parce que la Syrie est divisée contre elle-même, c'est une mosaïque de religion.
Et parce que pour des raisons assez difficiles à comprendre, Assad n'avait pas veillé au moral des troupes. Et en fait, les officiers supérieurs, les officiers généraux vivaient mal. Leur solde ne leur payait plus rien. Et donc,
c'est très dangereux quand on est dans le multiclone.
Voilà. Et donc, CIA, les services turcs, le Mossad en ont profité, évidemment. Je pense que c'est la CIA qui était à l'œuvre. Hein.
En Syrie.
En Syrie, c'était la. C'est quand même eux les chefs d'orchestre. Hein. C'est eux qui ont la taille, c'est eux qui ont le.
Et de thèse, Emmanuel Todd dit qu'en réalité, ce n'est pas du tout Israël qui commande, c'est les États-Unis. Et pour beaucoup de gens maintenant, on a plutôt l'impression que c'est l'inverse. C'est,
oui, alors,
c'est Israël, c'est la queue qui remue le chien, comme on dit.
Je ne me prononce même pas là-dessus, mais il y a des questions de taille et d'effectifs. Et puis, il y a des questions de masse monétaire.
Oui.
Quand on parle de corruption, il faut avoir l'argent.
Beaucoup d'argent.
Ouais. Et en l'occurrence, c'est plutôt la CIA qui l'a. C'est ça que je voulais dire. Alors ensuite, je n'entrerai pas dans le débat de savoir qui est le proxy de l'autre, comme on dit en mauvais français.
Non, mais je crois qu'ils ont la même conception du monde.
Je rejoins.
Et ce qu'on ne dit
pas
c'est que
vision.
Trump et Netanyahou, Edouard, pardon de vous couper, je ne vais pas le faire tant nous manquons de temps au regard de tout ce que vous avez à dire, mais Netanyahou a été ambassadeur d'Israël à New York dans les années 80, pendant 5 ans, auprès de l'ONU. Et là, il a rencontré Trump. Et ceux qui les connaissaient à ce moment-là ont découvert une amitié aussitôt, très vite, devenue très solide. Je crois qu'il y a même presque une cosmogonie entre les deux hommes. Et ça fait 50 ans que ça dure presque.
Oui, alors,
comme
souvent chez les vieux amis, les relations peuvent être houleuses. Hein. Il y a eu aussi des moments de fortes tensions.
On dit beaucoup que Netanyahou est intervenu pour assurer l'élection de Trump en 2016.
En revanche, c'est lui qui l'a lâché en 2020, puisqu'il a été le premier à reconnaître Biden. C'était l'intérêt d'Israël au-dessus de tout. Hein.
Tenir son
poids. Et en 2024, la connivence a été retrouvée. Mais disons que je m'insurge contre ceux qui pensent que Trump serait simplement le petit garçon face à Netanyahou. Non, je pense que Trump a une très forte personnalité. Par exemple, en 2019, il avait refusé à Netanyahou de lancer une guerre contre l'Iran. Là, il y est monté à bord. Alors ensuite, que ça soit un mauvais choix et que
Israël veut sa guerre contre l'Iran de longue date.
Hein, voilà, et surtout Netanyahou. Mais c'est vrai que le choix stratégique qui avait été fait par Rabin, par exemple aussi, la réconciliation avec les Palestiniens, c'était pour pouvoir rassembler les forces du pays contre l'Iran. La différence, c'est que Netanyahou, lui, il pense qu'on peut écraser les Palestiniens et défaire militairement l'Iran. On est en train de voir que ça n'est pas le cas. Mais pour revenir à Trump et Netanyahou, je pense que Trump c'est pas du tout un instrument d'Israël. Il a sa volonté propre et on peut s'interroger pour savoir dans quelle mesure les échecs de 2025 dans la guerre économique avec la Chine ont pesé sur la décision d'attaquer l'Iran, parce que personne n'a fait attention à la séquence échec des tarifs douaniers. Rencontre avec Xi Jinping le 30 octobre.
C'était le.
Où Xi Jinping, en fait, la rencontre devait durer 4 heures, elle dure 1h20.
Elle a été inflexible.
Il a un peu lâché, mais en fait, ce que l'entourage de Trump n'avait pas bien travaillé, c'était le fait que la Chine, c'était pas le protectionnisme qui la gênerait. Parce que bien sûr, ça avait des inconvénients, mais les Chinois ont commencé dès la période Biden à contingenter les exportations de terres rares et de matières premières nécessaires pour l'industrie américaine.
C'était là le problème.
Et en fait, Trump a obtenu un tout petit peu, que cet étau soit un tout petit peu desserré provisoirement.
Oui.
Mais en échange de la baisse de ses
oui,
tarifs douaniers.
Il a lâché sur les tarifs.
Voilà. Et donc c'est une grosse défaite. Et même si les Chinois veillent toujours à sauver la face de leur partenaire de négociation, en l'occurrence de leur adversaire, malgré tout, Trump a été profondément humilié par cette séance.
À quoi s'est ajouté la Cour suprême qui a contrarié beaucoup sa politique de tarifaire. Alors, pour le mois de janvier, d'un mot, avant d'en venir au mois de mars, et à la guerre pour proprement parler, on a beaucoup surfé, je crois, les manifestations. Enfin, moi, j'en ai eu l'intuition, mais je n'ai pas vraiment la preuve. Alors, on a dit 40 000, 30 000, 40 000, 50 000 morts, ça me paraît invraisemblable.
Non, non, non.
C'est pas possible, en quelques jours.
Les Iraniens en donnent 10 fois moins, ils en donnent 3 à 4 000. Quand bien même on doublerait le chiffre iranien. Alors, il faut comprendre ce qui s'est passé, c'est que les Occidentaux ne voient pas que la société iranienne est extraordinairement complexe, mais qu'aujourd'hui, elle est unie par le patriotisme. Alors même qu'il y a une baisse du sentiment religieux, indéniable, et qui peut expliquer aussi la volonté de desserrer l'étau d'une partie du régime, mais les Iraniens, là je rejoins Emmanuel Todd, ils sont d'autant plus patriotes qu'ils sont moins religieux. Mmh. C'est-à-dire que le sentiment national iranien est venu prendre la place du sentiment religieux qui avait en partie, pas seul, mais en partie porté la révolution.
On substitue une transcendance laïque à une transcendance religieuse.
Un peu comme la France de la fin du 19e siècle.
C'est très Troisième République.
Voilà. Et donc, les Occidentaux ont totalement sous-estimé le fait que les trahisons restaient limitées, en Iran même. Hein, je ne parle pas des Iraniens de la diaspora qu'on entend et qui ont des paroles très dures sur le régime, mais je parle des Iraniens dans les frontières de l'Iran comme territoire. Et donc, les Israéliens se sont trouvés devant un problème, c'est qu'ils n'avaient pas tant de soutien que ça. Et qu'est-ce qu'ils sont allés chercher ? Ils sont allés chercher ce qu'on pourrait appeler la racaille. Pour déstabiliser, pour casser.
Et ça a marché pendant plusieurs jours, mais ça n'a pas cassé.
Mais ça a braqué la population.
Oui,
aussi.
C'est ça. Ça n'a pas cassé le régime.
C'est comme si une puissance étrangère avait utilisé le potentiel des banlieues françaises pour faire de la casse.
Oui.
Mais ça braque le reste de la population.
Oui.
Et même une partie de ceux qui vivent avec les casseurs.
Oui, oui. Bon. Alors. Je vous coupe parce que j'ai beaucoup de questions à vous poser. On arrive donc au mois de mars, fin mars, dès la mi-mars, et vous, dès le début mars, vous comprenez et vous dites que le rapport de force n'est pas du tout celui auquel on s'attendait, que l'Iran tient et que même l'Iran a certainement plus de réserves et plus de capacité de destruction encore que la coalition israélo-états-unienne.
Oui, alors, d'abord, j'avais observé ce qui s'était passé lors de la guerre des 12 jours en juin 2025. On avait vu Américains et Israéliens assez rapidement vider leur stock de missiles pour le fameux dôme de fer bouclier de David. Hein. Il y a les deux composantes, mais face à l'Iran, c'est plutôt le bouclier de David, c'est contre les gros missiles. Mais sauf que il faut des missiles antimissiles et que les Iraniens ont très bien compris s'ils avaient un effet de saturation, ils forçaient le système de défense adverse à tirer le maximum de missiles, et quand les stocks s'épuisent, à ce moment-là, leurs missiles les plus performants peuvent passer dans tous les cas. C'est aussi vieux que le monde, hein, c'est le combat de l'artillerie et de la défense face à l'artillerie.
Et de la défense antiaérienne.
Et donc ils ont joué comme ça de manière intelligente. Et puis surtout, ce dont on s'aperçoit, les gens qui connaissent l'Iran le savaient, mais la qualité des ingénieurs iraniens fait qu'il y a une qualité indéniable des missiles.
Je crois que c'est juste devant l'Inde, le pays du monde qui a la plus grande proportion d'ingénieurs.
Oui. En proportion, oui.
Par rapport à la population.
Voilà.
Loin devant les États-Unis qui produisent.
Loin devant les États-Unis et en proportion, ils sont même devant la Russie et la Chine.
Il n'y a que l'Inde qui les concurrence où il y a aussi beaucoup d'ingénieurs.
Voilà. Alors, la Chine a beaucoup d'ingénieurs en effectif. La Russie a autant d'ingénieurs que les États-Unis avec en nombre absolu avec une population deux fois plus petite.
Oui.
Donc, on voit bien qu'il y a un problème en Occident qui est celui de la fin des formations sérieuses. Hein.
Et oui.
Les gens font de la finance.
Et donc, au fond, un déséquilibre, parce que je pense que la Russie et la Chine en sous-main sont assez actives. Et l'Iran est puissant elle-même, préparé à cette guerre. Il y a un déséquilibre entre l'axe qu'on croyait supérieur, Tel Aviv-Washington, et l'axe Pékin-Moscou-Téhéran, qui finalement s'avère plus solide.
Et surtout, c'est un
bel exemple du basculement du monde, hein, soit dit par parenthèse.
On découvre que Chine, Russie et Iran ont des armements plus modernes, plus efficaces.
Oui.
Que les armées de l'OTAN.
Ça, c'est historique, c'est un nouveau monde.
Et même Israël, hein, quand vous regardez ce qui s'est passé au sud du Liban, C'est assez incroyable. Le Hezbollah, dans les dernières semaines, a détruit pratiquement 180 chars Merkava, qui avaient les chars israéliens, qui ont la réputation d'être les meilleurs du monde. Mais visiblement, et alors ça c'est un point qui, c'est ce qui m'étonne le plus, c'est que les états-majors israéliens, américains, européens, confrontés à la guerre d'Ukraine, enfin ils ont la guerre d'Ukraine sous les yeux. Et ils n'ont pas tiré les leçons de la guerre d'Ukraine. Parce que même les Russes, qui ont des chars très performants, ne les utilisent plus dans la guerre. Pourquoi ?
Parce qu'on les cache même. À cause des drones. À cause des drones, oui. Voilà. Les chars ne sont plus invincibles. Les drones peuvent les toucher.
Voilà. Et le Hezbollah...
Et on les cache dans les forêts en Ukraine. Les Russes les cachent, leurs chars.
Et ça m'étonne. Quand on voit le Hezbollah démolir les chars israéliens, ça veut dire que les états-majors occidentaux ne veulent pas tirer les leçons de la guerre en cours en Ukraine, qui est un laboratoire.
Faiblesse de plus.
Alors, a fortiori contre l'Iran, bien sûr.
Alors, venons-en aux conséquences. Encore une fois, je suis désolé de devoir aller si vite, mais vous en tirez ici ou là. J'invite tous nos auditeurs à vous suivre, parce que vraiment, vous êtes très, très instruits sur tout cela. Et puis, vous avez un talent pour communiquer aussi, qui fait que c'est très agréable. Vous savez, je suis avec vous dans ma cuisine, je regarde sur Internet avec mon appareil quand je fais ma cuisine, ou que je déjeune ou dîne seul.
J'espère que la recette n'est pas ratée de ce fait.
Non, mais je me couche aussi de temps en temps en vous regardant. Et j'invite tout le monde à, vraiment, s'ils veulent s'informer, de foutre leur télévision par-dessus bord, et puis de regarder des gens très informés comme Edouard Husson. On peut trouver beaucoup de choses sur vous, de vous. Et vous disiez l'autre jour, je crois que c'était sur une autre chaîne, mais que j'aime bien, donc je n'ai pas de scrupule à la citer, GPTV, que les conséquences économiques vont être terribles pour l'Occident. Il n'avait pas non plus anticipé ça. Cette affaire de l'étroit d'Hormuz, et puis ensuite les conséquences commerciales et donc financières peuvent très mal tourner. Vous étiez d'un pessimisme l'autre jour sur GPTV, effrayant.
Oui. Alors, je préfère dire les choses pour que les gens se prennent leurs précautions.
Mais c'est-à-dire quoi ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? On s'en va, on se met dans les caves.
Non, mais si vous pouvez acheter un peu d'or, des bons vieux souverains.
Acheter des maisons à la campagne,
ou de la pierre.
De la pierre à la campagne.
Et de la pierre,
c'est la principale force de la France aujourd'hui, son territoire.
En tout cas, tout ce qui est papier, certificat, etc. Ou si vous achetez des bons du Trésor, n'achetez plus des bons du Trésor américain, acheter des bons du Trésor
chinois, de pays
asiatiques, oui. Oui, bien sûr. Mais
alors, donc, conséquence en deux mots.
Alors, en deux mots, les Occidentaux n'avaient pas voulu croire que Hormuz serait bloqué, le détroit d'Hormuz. Or, les Iraniens l'ont fait. Avec la complicité involontaire des assureurs britanniques qui ont dit que c'était trop cher de protéger les bateaux.
Donc on fait plus passer personne.
Donc ça a aidé les Iraniens. À partir de là, effectivement, on a un système qui est assez curieux, où les Iraniens filtrent et ils laissent passer du pétrole pour la Chine, pour le Pakistan, pour l'Inde, pour les pays aussi qui veulent bien signer des accords avec eux et payer en yuan. Puisque c'est ça la grande différence.
C'est formidable.
Mais par ailleurs, il y a quelque chose que les Américains n'avaient pas vu venir, c'est que le prix du... Même s'ils ont beaucoup de ressources en pétrole, mais le prix du pétrole, il est le même sur l'ensemble des marchés mondiaux.
Et donc, ils sont impactés, ils sont touchés.
Et donc, ils sont impactés aussi. Alors, en fait, ils essayent, comme ils jouent beaucoup sur le prix du pétrole à 3 mois, ils essayent par les certificats sur le prix du pétrole à 3 mois, ce qu'on appelle les futures en anglais. Ils essayent de baisser le prix, parce que vous avez des gens qui parient, qui disent le prix du pétrole aura baissé dans 3 mois. Sauf que ça maintient artificiellement le prix du baril aux États-Unis un peu en dessous de ce, enfin même quelquefois très en dessous de ce qu'il est en Asie. Mais c'est artificiel, ça va pas durer.
Ça les oblige à arrêter les frais en tous les cas et de pas prolonger les bombardements.
Et puis le prix du gasoil, il est le même à la pompe pour le consommateur américain.
Et pour l'Europe aussi, les perspectives sont terribles parce qu'on se coupe de l'énergie russe d'abord pour commencer. On continue.
Et puis alors la bêtise crasse, parce qu'il y a pas d'autre façon de décrire, des gens de l'Union européenne qui ne voient pas qu'ils ont une occasion en or de dire à Poutine, si on arrêtait les frais et si on recommençait à essayer de commercer ensemble, eh ben non, par principe, on ne veut pas. Enfin, il y a un aveuglement idéologique qui est quand même, parce que les Américains sont aveugles sur la question de l'Iran, mais l'Union européenne est aussi aveugle sur la question de la Russie. Fait, c'est très, on peut mettre ça en parallèle. Hein.
Oui. Et ils sont aveugles tout court d'ailleurs sur toutes les questions en vérité. Alors ouais. Peut-être moins, je ne sais pas. Je crois que le chancelier allemand a quand même dit noir sur blanc. Enfin, il s'était exprimé, donc c'était pas noir sur blanc, clairement. Que l'Iran avait humilié les États-Unis, c'est assez nouveau ça, vous qui connaissez l'Allemagne.
Alors, noir sur blanc, c'était les couleurs du drapeau prussien, noir et blanc.
Pardon.
ce qui est bien vu.
Je crois que Merz
c'est bien vu. Merz, il y a des fois, on a envie de lui mettre son casque à pointe.
Oui.
Merz ferait bien de faire attention parce que régulièrement, les Allemands se disent, ça y est, on va pouvoir montrer nos muscles face aux États-Unis. Les États-Unis ont quand même encore des ressources, hein.
Oui.
Mais Merz a du mal à faire dans l'équilibre. Donc, il y a quelques semaines, il expliquait que la Russie était un pays barbare.
Oui, l'inverse.
Voilà. Ouais.
Quel manque de subtilité chez les dirigeants européens. Quelle balourdise.
Il a aussi insulté l'Iran. Enfin ouais. Donc.
C'est balourd. Mais les conséquences seront terribles pour les peuples.
Les conséquences seront absolument.
Y compris en France, bien sûr.
Absolument terribles. Et surtout, ce qu'on voit, c'est le désarroi profond de la couche dirigeante de l'Union européenne. Ensuite, il y a quelques dirigeants astucieux, comme Mme Meloni, qui va négocier son pétrole avec les Algériens, et qui en profite pour taper sur Trump quand il dit du mal du pape. Mais ça veut dire qu'on va assister à des réflexes nationaux.
En Italie, ils existent.
C'est
tout à fait.
Si tant est que les dirigeants soient capables d'en avoir.
De les écouter. D'écouter leur peuple
et de parler. Alors on voit bien de temps en temps, à la surface, ça monte chez Macron, il ne sait pas trop, mais il dit « Ah, mais peut-être que je suis président français, peut-être qu'il y a un rôle du président français.
Voilà. » Alors, indépendamment, j'invite encore tout le monde à vous suivre sur les méandres, les causes et les conséquences qui aboutiront par des voies financières, par des équilibres, enfin la fragilité de nos économies qui repose sur une financiarisation extraordinairement volatile. Enfin, en réalité, un rien peut tout faire basculer, c'est ce que vous expliquez. Mais il y a une autre conséquence, peut-être plus importante, pour moi elle est en tous les cas, c'est une sorte de déréliction dans laquelle plonge l'Occident, qui est très grave d'ailleurs, parce qu'il s'aperçoit qu'il est minoritaire, enfin qu'il n'a plus la suprématie qu'il a eue pendant tout au long du XXe siècle, et qui se replie, je parle de l'Occident, surtout protestant, WASP, vous voyez, protestant et blanc, sur une sorte de suprémacisme, qui rencontre encore une fois Israël, d'ailleurs, suprémacisme blanc, qui est le début de sa chute, enfin, et qui en même temps lui fait faire des choses si contraires à ses principes, notamment religieux, qu'il n'est plus sur ses bases, et que le pape intervient. Et vous êtes un des rares, ça m'a fait plaisir, à montrer l'aspect spirituel de la dérédiction de l'Occident et à louer les interventions du pape Léon que vous suivez, que vous commentez, dont vous voyez la portée spirituelle qui est immense, parce que c'est là où le monde bascule.
Alors, Léon XIV est américain.
Et nous pouvons garder un rôle, nous chrétiens, sans être occidentaux.
Oui.
Il ne s'agit plus de solidarité occidentale, je le répète sans cesse, il s'agit de retrouver la chrétienté.
Exactement. S'il y a eu quelque chose de positif en Occident, si on utilise le terme, c'est effectivement, il y avait une bonne entente entre les présidents américains et les papes, entre Roosevelt et Reagan.
Oui, mais contre le communisme.
Contre le communisme, voilà. Mais ça, c'est fini.
Mais l'antagone entre les protestants et les chrétiens.
Et on voit de plus en plus un antagonisme qui remonte aux États-Unis. Alors, pendant longtemps, ça a été, on va dire, la gauche démocrate et mondialiste, en particulier à cause de la question du malthusianisme, du contrôle de la population, du droit à l'avortement, etc., qui s'est heurté depuis Jean-Paul II. Hein, ça remonte à Jean-Paul II. Il y a eu aussi les guerres du Proche et du Moyen-Orient. Hein, Jean-Paul II, Benoît XVI, François ont été extrêmement critiques.
Ne serait-ce que parce qu'Israël persécute les chrétiens.
Oui, tout à fait.
C'est encore pire dans la rage de Tsahal au sud
aujourd'hui,
Liban,
oui.
C'est invraisemblable.
Oui.
Détruisant les villages chrétiens, au moins ça fait litière de cette imposture intellectuelle qui s'est appelée le judéo-christianisme. Nous avons dénoncé à ce micro, à plusieurs reprises.
Oui, mais alors là, ce qui est nouveau, c'est qu'en fait, le Parti républicain américain se scinde sous l'effet des critiques légitimes qui sont dans la continuité de la tradition de l'Église, hein, du pape Léon qui dit que la guerre contre l'Iran est une guerre injuste. Mais alors du coup, ça a comme conséquence que protestants et catholiques qui faisaient le ciment du
des
parti
magas, ouais.
du pa- des magas
avec
et
les latinos,
du Parti
notamment,
républicain,
des latinos voilà, catholiques.
Et ben, c'est très ébranlé. Et Trump a parlé un peu trop vite en attaquant le
oui,
pape.
Parce qu'il perd toute sa base catholique.
Moi, j'ai un ami américain qui est un catholique engagé qui m'a appelé pour me dire tu sais que j'ai voté Trump, mais j'espère que tu sais aussi que je désapprouve totalement ce que Trump a dit contre le pape. Et je crois que cet ami n'est pas seul. Donc il y a une scission qui est en train de se produire et qui va avoir des conséquences énormes sur toute la politique américaine.
Sans compter la mauvaise conscience, parce que quand même, on peut pas continuer. Une puissance qui en plus a de moins en moins les moyens, qui perd son arme petit à petit, son arme majeure qui est le dollar. La position de l'Arabie Saoudite a l'air d'ailleurs assez dangereuse pour lui, à la faveur de cette crise, mais il y a bien d'autres dangers. Il peut pas se payer ce pays ne peut pas survivre si en plus une crise morale profonde le mine. Je crois que c'est important.
Alors, là, je voudrais juste sur ce point finir par une remarque. Quand le communisme était ébranlé, l'Union soviétique était chancelante, il y a eu un pape polonais et qui a aidé les peuples à sortir de ce totalitarisme-là. Et là, on a le paradoxe d'un pape américain qui va sans doute aider les États-Unis et l'Occident avec sa boussole à s'en sortir d'une manière ou d'une autre.
C'est le paradoxe. Une comparaison fort adorable. On va peut-être la soumettre à Nicolas Dupont-Aignan, qui est au bout du fil, je crois, mais auparavant, nous devons écouter un petit Bobino.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Nicolas, je vous vois, mon cher ami. Je vous retrouve
Bonsoir.
Avec plaisir. Je ne sais pas si vous avez pu entendre. C'est très intéressant ce que nous disons. Si vous avez pu entendre ce que dit Édouard Husson, que vous connaissez et que vous suivez, vous aussi. Vous aviez pu dire deux mots, mais pardon, il n'y en avait pas beaucoup plus la semaine dernière, à l'occasion de la parution, qui je crois était la semaine dernière, de votre beau livre, qui à mon avis rencontrera un grand succès, c'est déjà bien commencé, 2007, La liberté ou la mort, le titre est terrible, mais le contenu aussi. Poursuivons 5 minutes, si vous voulez bien, avant d'en venir exactement à votre livre, Nicolas, sur ce que dit Édouard Husson. Il y a évidemment dans ce basculement du monde qui s'accélère, notamment à la faveur de l'affaire iranienne, des conséquences économiques qui peuvent être désastreuses pour nous, surtout si on perd nos instruments, nos boussoles et notre indépendance. Ça, c'est un aspect fort de votre livre. Mais il y a aussi un aspect moral. Et je veux savoir ce que vous pensez d'Édouard Husson qui vient de faire un parallèle étonnant entre Léon, le pape Léon, qui est en train de déstabiliser ce que peut avoir d'intraitable et de dangereusement violent le monde occidental et les États-Unis en particulier, et Jean-Paul II, pape polonais, qui a déstabilisé l'autre bloc, le bloc soviétique dans les années 80. Ça vous paraît recevable? Moi, je donne mon avis tout de suite, cette comparaison assez succulente.
Oui, je n'avais pas imaginé cette comparaison et j'avoue que je suis impressionné.
Oui.
Parce que, en tout cas, cette comparaison montre qu'il n'y a pas de pouvoir durable sans morale, quand même.
Et oui.
De l'action.
Quoi. Et oui. Et peut-être donc, sans spiritualité, on peut dire.
Et oui, et le système s'effondre.
Il s'effondre dans le nihilisme. Voilà. Le mot est utilisé à plusieurs reprises. Je crois qu'il y a un nihilisme latent qui est en train de miner l'Occident de l'intérieur.
Oui, et puis quand même, l'aventure Trump en Iran, parce que c'est bien une aventure, est quand même pour moi incroyablement surprenante, parce que l'homme qui se fait élire sur le refus des interventions extérieures et qui change du tout au tout, et qui part tête baissée, sans savoir d'ailleurs où il va... C'est quand même avoué impressionnant.
Mais vous savez,
alors,
tout,
j'ai pas
tout
écouté votre conversation avant.
Tout empire.
Et je ne connais pas l'hypothèse d'Édouard Husson, mais c'est quand même Imaginez pour l'électorat de Donald Trump ce que ça représente.
Oui, c'est ce que dit Edouard, exactement. C'est ce que dit Edouard Husson.
Je suis entièrement d'accord avec vous, Nicolas, et tout à fait.
De toute façon, c'est la logique de l'Empire, et Trump ne menace, au fond, quel que soit le rôle des hommes dans l'histoire, il y a un effet système. Le système impérial le renverse tôt ou tard. Un empire, surtout qui a toujours vécu de la guerre pour la guerre et par la guerre, ne peut plus s'empêcher de la faire jusqu'à son effondrement définitif. Il y a quelque chose de moral là-dedans.
Alors, est-ce que c'est l'Empire ou est-ce que c'est Donald Trump lui-même qui est tenu et qui a été tenu par Israël sur beaucoup de choses?
C'est pareil. C'est que l'Empire est empêtré dans ses alliances.
On en a parlé avec Paul-Marie, là, avant que vous arriviez. On était assez d'accord pour dire qu'il y a bien sûr un rôle important des Israéliens, et de Netanyahou en particulier, mais Trump a sa volonté propre. Il y a une pulsion de violence qui s'est révélée. Moi, j'émettais l'hypothèse que la première année du second mandat de Trump, l'année 2025, c'est finalement mal passé pour lui sur le plan économique. Il a perdu sa guerre des tarifs douaniers. Il a été humilié par Xi Jinping lors de leur rencontre du 30 octobre 2025 à Busan. Je pense qu'il y avait une soif de revanche.
Et Poutine n'a pas fait de concession aussi.
Et Poutine n'a pas fait de concession sur l'Ukraine.
Il a cru l'embobiner.
Et donc c'est un échec pour lui. Et je me suis demandé s'il n'y avait pas l'idée de... Bon, bah, puisque c'est comme ça, un peu comme il avait dit une fois, on ne m'a pas donné le prix Nobel de la paix, je vais faire la guerre. Et bien, finalement, il l'a bien fait.
Il y a quelque chose de puéril et dérisoire là-dedans. Nicolas, vous suivez comme le fait Edouard Husson, il est rare en cela, mais je sais que ça vous intéresse. Je vous ai croisé un jour dans une église du 5e arrondissement, ça m'a plu pour tout vous dire, à dimanche. On peut dire où, à Saint-Julien-le-Pauvre, qui est près de chez vous. Est-ce que vous suivez cette querelle étonnante et tellement significative entre le pape et l'empereur, c'est-à-dire entre Léon et Trump?
Oui, je l'ai suivi, oui, bien sûr. Maintenant, oui, en fait, Léon sauve l'honneur, si je puis dire. Mais est-ce que Trump va l'écouter?
Mais c'est pas ça. On s'en fiche que Trump l'écoute. Ce qu'il faut, c'est resserrer la chrétienté autour de principes qui nous arrachent au nihilisme occidental, à mon avis. C'est ça ce qui est en train de se jouer. Notamment oui. les voyages du pape à Monaco, à Alger, non. En Afrique, sont très significatifs. Il ne fait rien d'autre que de rappeler les paroles d'Évangile.
Il remet l'Église au milieu du village.
Il remet au milieu de la chrétienté.
Au milieu du village. Au milieu du monde.
Au milieu de notre civilisation. Mais pas du monde, de notre civilisation. Mais ça va très loin quand... D'abord, c'est très simple qu'un pape stigmatise l'idolâtrie de soi et l'idolâtrie de l'argent. Parce que quand Trump dit qu'il se mêle de politique, et encore ce pauvre vice-président qui m'a pas l'air si solide que ça, lui reproche aussi de se mêler de politique, non, c'est les paroles d'Évangile, hein, tout simplement, on peut pas lui reprocher cela. Et quand il est en Afrique et qu'il dit, alors là pour nous ça a une portée immense, y compris pour la droite française, mais on va pas insister sur ce point douloureux, pas de guerre entre les chrétiens et les musulmans, alors qu'il y a une guerre entre les chrétiens et les juifs, en ce moment. C'est terrible. C'est terrible pour une certaine droite. Mais enfin, bref, que l'on dit identitaire et qui est américaine, tout simplement. Mais ce n'est pas là-dessus que je veux vous embarrasser, mon cher ami. Loin de moi, cette idée. Votre ouvrage, La liberté ou la mort, a deux parties, pour moi. La première, vous vous lâchez beaucoup, et justement, au nom de la morale, en racontant votre vie, votre expérience, et en stigmatisant avec une... Là, vous sortez un peu de vos gonds, en réalité, avec une vigueur neuve qui montre que votre marche vers l'élection présidentielle, et peut-être vers l'Élysée, sait-on jamais, on peut rêver, a du carburant dans le moteur. Vous stigmatisez très souvent, c'est frappant quand on lit ce beau livre, très riche, vous stigmatisez les lâches, vous stigmatisez... que vous appelez, ça revient tout le temps, les dirigeants sans scrupules. Alors là, les dirigeants sans scrupules, c'est souvent des gens de votre camp, et là, vous êtes impitoyable. Là, vous avez largué vos amarres, parce qu'il y a une galerie de portraits, il faut acheter ce livre d'abord pour cela, parce que c'est quand même succulent, il y a une galerie de portraits, mais de ceux qui ont été vos amis, quelquefois, et qui sont à LR, absolument au vitriol.
Mais pas au vitriol, non, c'est pas au vitriol. Oh. C'est qu'il y a un moment, si vous voulez, ils sont responsables du naufrage du pays, quoi. Voilà, c'est tout.
Oui.
Je dis les choses telles qu'elles sont.
Oui, oui.
Et ils ont récidivé. C'est-à-dire que c'est quand même extraordinaire, cette classe politique qui passe sa vie à vouloir mettre en prison les récidivistes, les délinquants récidivistes.
Qui récidivent tous les jours.
Ils récidivent tous les jours. Vous pouvez commettre une erreur. La grande différence entre aujourd'hui et il y a 30 ans, c'est quand Philippe de Villiers, Jean-Pierre Chevènement ou Philippe Séguin, il y a 30 ans, nous disaient « cette Union européenne nous mène à la déroute, l'absence de frontières va aboutir au chaos migratoire, tout ça ». Quand ils disaient cela, on pouvait leur dire, et c'est ce qu'on nous répondait à l'époque, souvenez-vous Paul-Marie, on nous répondait « oui, mais vous n'avez rien vu, ça va accoucher d'une Europe fabuleuse qui va renforcer le pouvoir d'achat, la paix, la sécurité, etc. » On n'avait rien compris. Aujourd'hui, on a la preuve par l'exemple que cela a échoué. Oui. Et il continue.
Oui.
Il
c'est continue. Ce qu'on disait tout à l'heure, l'aveuglement est parfait, oui. Parce que c'est l'idéologie.
Il continue.
Mais alors,
il continue. Non, non, c'est pas une idéologie, pardonnez-moi. Pourquoi je les étrille ? Il y en a pour qui c'est une idéologie. Mais pour la plupart, c'est la soupe. C'est la soupe. C'est les petits intérêts, c'est la lâcheté ordinaire. C'est pas une grande idéologie, hein. Pour beaucoup, c'est la soupe.
Peut-être.
Ils vont à la soupe.
Oui, oui.
Ils sont comme les dirigeants des colonies d'antan. Vous savez, on mettait toujours dans les colonies des dirigeants fantoches.
Mais oui.
Parce que
comprador,
qui faisaient semblant.
Ça, les bourgeoisies comprador, oui.
Voilà. Et ben, c'est exactement la même chose.
Les collabos, quoi.
Et c'est ça qui me, à un moment, je dis aux Français, mais n'ayez pas peur. Le jugement dernier arrive, n'ayez pas peur de dire les choses, parce qu'ils continuent à nous embobiner,
oui.
Ils osent encore venir sur les estrades, oui. Nous expliquer que ça va, qu'on va corriger l'Union européenne,
oui.
Qu'on va arriver à s'en sortir,
oui.
Et enfin, ça fait 30 ans que j'entends la même chose.
Vous avez largué vos amarres, notamment en 2017, alors vous revenez sur cet épisode douloureux pour moi, parce que Serge Dassault et moi-même... plus silencieusement, je vous exhortais à appeler à voter pour Fillon dès le premier tour pour qu'il s'assure du second tour. Finalement, ça ne s'est pas fait, vous n'avez pas trop poussé les feux et surtout, François Fillon, enfin, vous en souvenez, n'a pas repris. Là. Comment vous voyez ça ? Parce que c'est un naufrage.
Mais j'ai regretté cette affaire, mais et je raconte le débat à 11 candidats en 2017 du premier tour.
Oui.
Où François Fillon était fasciné par Emmanuel Macron.
Oui.
Et François Fillon a décerné les plus sévères flèches contre moi, m'accusant d'avoir voté non au référendum de 2005.
Oui.
Donc ça veut dire que François Fillon est passé à côté de l'histoire,
oui.
Là. Je ne sais
ce
pas
référendum est une grande rupture aussi. Et vous stigmatisez aussi certains députés LR qui vous disiez dans le creux de l'oreille, vous étiez député à ce moment-là, je préfère sortir de l'hémicycle plutôt que de voter contre le traité d'Amsterdam,
oui.
Qui était leur pente. Donc il y a une question morale.
Il y a
une question morale, c'est-à-dire que vous devenez très moraliste dans ce livre, voilà ce que je veux dire. Et donc assez sévère.
Il y a une question de cohérence.
Oui.
C'est un peu différent de la morale. Il y a une question de cohérence politique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, et je raconte dans le livre, comment toutes ces personnalités battent les estrades en nous disant on va renforcer la sécurité, on va lutter contre l'immigration, on va renforcer le pouvoir d'achat, on va réindustrialiser la France, et ils votent systématiquement des traités qui les dépossèdent, qui dépossèdent la nation des moyens d'atteindre ces objectifs. Et là, je ne comprends pas. En fait,
vous stigmatisez la moralité.
Non, je ne les comprends pas. Je veux dire...
L'absence de moralité, c'est ça, c'est, vous comprenez très bien. L'absence de morale.
Oui, mais au-delà de l'absence de moralité et au-delà de ce cynisme effrayant pour s'asseoir dans un fauteuil ministériel ou présidentiel, il y a le fait, et ce que j'avais dit à Nicolas Sarkozy, qu'ils s'interdisent de réussir au pouvoir, se privant des leviers de l'action politique. Et c'est là où je ne les comprends pas. Sarkozy, toute sa vie, a voulu être président de la République et il se dépossède lui-même des moyens de réussir son quinquennat. Et je lui explique, je lui dis, mais Nicolas, à partir du moment où tu vas céder à l'Union européenne, tu ne pourras plus exercer, remplir tes engagements. Et il croit, je crois sincèrement, qu'il va pouvoir tout faire. Le en même temps funeste de Macron, il a commencé bien avant. Mmh. En même temps, c'est on peut tout faire, tout est dans tout.
C'est l'archétype de la génération, ça. Oui, oui, oui. Alors écoutez, dans la seconde partie du
livre... Mais il n'y a pas que ça dans le livre.
Oui, dans la seconde partie du livre, qui est plus programmatique, il y a quelque chose de neuf, parce qu'on ne peut que souscrire à toutes vos propositions, à tous les sujets, vous les prenez les uns après les autres, l'éducation, l'industrie, l'agriculture. Là, tout est frappé au coin du bon sens et montre que c'est possible. C'est possible parce qu'il y a quelque chose de nouveau chez vous, que je tiens à saluer avec grand bonheur. Vous avez enfin compris, après avoir compris depuis longtemps, mais il y avait des hésitations quant au modus operandi, qu'il fallait sortir de l'Union européenne. Et ça, ça rend votre discours, à mon avis, y compris pour la présidentielle, une très grande crédibilité. Là, on accède
à
l'histoire.
Oui, j'ai mis du temps. J'ai mis du temps. Et en fait, ce qui m'a fait basculer, et qu'on ne pouvait plus le changer de l'intérieur, c'est que cette organisation... monstrueuse, bureaucratique, totalitaire, s'attaquait désormais aux libertés individuelles et voulait nous entraîner vers la guerre pour effectuer le grand saut fédéral et liquider les nations. Et c'est ça le grand changement, je trouve, depuis une dizaine d'années.
Vous pouvez le percevoir depuis longtemps.
Et surtout depuis la crise Covid. Oui. Non, mais on l'avait anticipé, mais ce n'était pas encore arrivé.
Oui.
Et on pensait pouvoir récupérer des compétences pour la nation. Aujourd'hui, ils sautent par-dessus la nation et ils enchaînent les individus. Et les Français ne l'ont pas encore saisi parce qu'ils ne voient pas encore les conséquences très concrètes.
Mais vous avez peur que les Français rechignent aujourd'hui à quitter l'Union européenne ? Je sais que c'est une hantise au point que vous dites qu'il faut en sortir, mais préparer un autre machin, une autre machine plus légère, certes, mais une contre-Europe. On ne peut pas en sortir tout simplement et ensuite on coopérera avec qui bon nous semble.
Vous avez totalement raison. Il faut arrêter.
On verra.
Il faut d'abord arrêter d'obéir. Il faut arrêter d'obéir à une fiction juridique parce que Madame von der Leyen, une fois qu'on aura cessé le financement, rétabli nos frontières, affirmé la supériorité du droit français et sorti du marché européen de l'énergie, elle aura beau brailler, à part nous demander d'utiliser notre force de dissuasion nucléaire pour nous jeter une bombe sur la tête, on ne voit pas ce qu'elle va faire. Donc, il faut déjà... reprendre possession de nous-mêmes. Ce que je veux dire, et qui est très important pour moi, c'est de dire aux Français, bah, n'ayez pas peur, ça vous rappelle quelqu'un, n'ayez pas peur, vous êtes libre. Une grande nation comme la France a existé avant l'Union européenne, et le monde ne va pas s'arrêter de tourner. Et au contraire, nous allons retrouver... les moyens de résoudre nos problèmes, nous allons retrouver...
Et d'abord la responsabilité de nous-mêmes, parce que ce qu'il y a de plus délétère dans
exactement.
L'Union européenne, c'est que les Français ont perdu, y compris individuellement,
exactement.
La responsabilité et l'idée même d'être Français. Voilà.
Et c'est ce que j'explique dans ma troisième partie, qui est un peu nouvelle chez les souverainistes, c'est qu'une fois qu'on est libre, ça nous oblige à marcher droit, à être responsable de nous-mêmes, à agir. C'est un préalable. Ce n'est pas suffisant. Et pour moi, les deux vont ensemble. D'abord, on redevient libre, c'est-à-dire qu'on sort de l'Union européenne, et ensuite, on met en œuvre une politique. Parce qu'on peut être souverainiste et puis après se laisser aller, ce qui donnerait raison à ceux qui voulaient qu'on reste
sûr.
Allemand parce que les trains arrivaient à l'heure.
Bref.
Alors, ce que je veux dire par là, c'est important. Parce que je suis le premier à en parler. Parce que souvent, le Frexit est un mot magique qui dispenserait de toute politique nationale.
Oui, bien sûr.
Mais si on redevient libre, c'est pour savoir vers quoi on va aller. Et dans le livre, j'indique pourquoi je veux redevenir libre.
Oui.
Pourquoi je veux que mon pays redevienne libre.
En quoi il est riche et complet. Édouard Husson voudrait vous poser une question, mon cher Nicolas. Pardon, on s'appelle un peu par nos prénoms, mais on se connaît de longue date tous les trois, donc pas trop de chichi. Bien que c'est un côté un peu américain de cette inflation des prénoms. Édouard Husson, donc, voudrais vous poser une question, Nicolas.
Oui, alors, d'abord une boutade. Nous savons tous que les trains n'arrivent plus à l'heure en Allemagne. Hein? Donc, c'est un argument qui, désormais, n'a plus cours. Et la Deutsche Bahn est même connue pour être, aujourd'hui, l'une des moins performantes en Europe. Hein? Vous prenez, je ne parle même pas des trains suisses qui sont toujours une minute en avance, mais les trains italiens, aujourd'hui, sont très ponctuels. Alors d'ailleurs, que les... ça veut bien dire que l'Union européenne ne fonctionne plus. Non, plus
et que la latinité a voilà. De vastes territoires devant
elle. Voilà. Plus sérieusement, où est-ce que vous voyez les quand vous allez annoncer que la France ne respecte pas un certain nombre de contraintes qu'on veut lui imposer au nom de l'Union européenne, et même qu'elle sort du dispositif, où est-ce que vous attendez les résistances les plus fortes? Là, je parle pas chez nous, parce qu'il y aura des traîtres, il y aura des gens qui voudront pas suivre le président de la République, mais quelle que soit sa légitimité populaire, mais en revanche, à l'extérieur. Où est-ce que vous voyez les points de résistance? Est-ce que c'est l'Allemagne? Est-ce que c'est la bureaucratie bruxelloise? Je dis ça parce que j'avoue que je n'ai pas encore lu votre livre, que je me fais une joie, que j'ai acheté, que je me fais une joie de lire bientôt, mais je vous pose la question très naïvement pour comprendre, pour vous, où vous avez anticipé les premiers, les plus dures résistances au sein de l'UE que vous voulez quitter.
Bien, je pense qu'elles seront à l'intérieur du pays, chez les oligarques qui profitent de la colonisation, ceux qui pillent le pays. C'est eux qui vont
le mot colonisation est fort, justifié, mais fort, je le note.
Et j'ai, vous verrez, dans la troisième partie du livre, j'ai fait un exercice de politique fiction. J'ai imaginé un président souverainiste et je n'ai pas fait un scénario rose. J'ai imaginé de grandes manifestations contre lui, j'ai imaginé toutes les ruses du système intérieur qui vit de cette dépendance. Parce qu'en vérité, plus j'y réfléchis, plus c'est une fiction, cette Union européenne. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est parce que nos classes politiques a accepté cette soumission et veut apprendre aux Français à s'y habituer qu'elle existe. Et parce qu'ils en profitent. Ils en profitent. C'est tout un réseau croisé d'intérêts. On le voit dans le domaine de l'énergie, on le voit dans le domaine de l'immigration de masse. Dans tous les domaines, en fait, il y a les profiteurs de l'intérieur. Et ce sont eux qui vont s'élever contre ce nouveau pouvoir. Mais ce nouveau pouvoir aura deux légitimités. On oublie toujours que les Français ont voté non. Donc moi, je suis candidat à la présidentielle pour faire respecter la volonté du peuple français, qui a été bafouée depuis 2005, systématiquement. Premier point. Et puis, il y aura la légitimité de l'élection. Et puis ensuite, je pense qu'il y a autre chose qu'on oublie. C'est la capacité à convaincre les autres peuples.
Alors... il me reste 3 minutes pour un petit plaisir, accordez-le-moi l'un et l'autre. J'ai vu des images, elles sont bouleversantes. On entend la chanson en même temps et je parle par-dessus. Merci de m'avoir si bien compris, mon cher Benoît. Une chanson de Michel Delpech et devient le fétiche de ce qu'on appelle, je crois, les grands banquets du canon français. Voilà. Le canon français, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cela, c'est une association formidable d'un peuple qui vraiment ne veut pas mourir et qui organise dans les grandes métropoles régionales, c'était à Agen au mois de mars, c'était à Caen au mois d'avril, d'immenses banquets entièrement français, du vin français, de la nourriture française, des drapeaux français, des oriflammes français, et qui chantent cette chanson. Ensemble, des milliers de Français de poumons chantent cette chanson tellement belle, écoutons quelques paroles, qui sont le fin fond de la France. Et ça prouve, vraiment, moi, ça m'a arraché des larmes, que les Français, tapanisés par un système médiatique qui veut les aliéner vers une autre civilisation, la civilisation atlantique, la civilisation américaine, continuent à revendiquer leur identité.
Avec mon fusil dans les mains, au fond de moi je me sentais un peu coupable. Alors je suis parti tout seul, j'ai emmené mon épagneul en promenade.
Alors hélas, nous manquons de temps. En un mot, Nicolas Dupont-Aignan, même question à Édouard Husson, existe-t-il encore un peuple français ?
Oui, oui. Oui, les Français veulent vivre.
Les Français, c'est ce que disent ces banquiers géants.
Mais oui. Et
simplement, vous les rencontrez les d'ailleurs dans votre livre sans cesse. Vous parlez des Français que vous voyez, ce paysan que vous rencontrez, dont on vous apprend un an plus tard qu'il s'est suicidé. C'est très sensible.
Mais ils veulent vivre, mais ils sont Ils sont culpabilisés quotidiennement de vouloir exister par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Voilà. C'est ça la difficulté.
Mais
donc c'est pour ça qu'on a un rôle.
Ils résistent. Et ils chantent des chansons voilà. françaises.
Et ils vont gagner. On va les faire gagner.
Quand, dans vos grandes assemblées, je dis bien meeting de campagne, il faut mettre ces musiques-là et non pas quand même un certain Rassemblement National des musiques américaines. Parce que déjà l'aliénation, elle a tué tout le reste. Bien, merci Nicolas. Même question merci. À Édouard Husson. À bientôt Nicolas. Et je suis très ravi que Radio Courtoisie vous invite, que plusieurs patrons d'émissions vous veulent et que Courtoisie soit d'une certaine façon à vos côtés, en tout cas vous fasse bon accueil, comme le public fait bon accueil à ce livre. Et je vous dis à bientôt.
À bientôt, merci à vous.
Un
merci
mot, Édouard, pour conclure.
Oh, très brièvement, d'abord, je serai le pouvoir et le système en place. Je me rappellerai, il faudrait avoir fait de l'histoire, que les banquets républicains, d'où qu'ils viennent, c'est dangereux. Ça annonce toujours.
Troisième République.
Oui, puis les années 1840 aussi, hein. Les banquets juste avant la révolution 1848.
48, oui.
Voilà. Donc ça, c'est la première remarque. La deuxième, c'est que je pense que celui qui gagnera, il ira chercher le peuple aussi là où il est partout, y compris dans les banlieues. C'est-à-dire, je pense que les Français qui sont plus récents de citoyenneté, ils ont exactement le même rapport au pouvoir et la même envie que ça change et la même envie de liberté.
Note très optimiste, bien que la géopolitique nous pousse à l'inquiétude, que le peuple français existe toujours. Merci Édouard Husson, merci Nicolas Dupont-Aignan, merci chers auditeurs, nous nous retrouvons bien entendu la semaine prochaine avec Vladimir Fedorovski.
Vous venez d'entendre les répliques du Nouveau Conservateur dirigé par Paul-Marie Couteau, diffusé en direct sur Radio Courtoisie mercredi 29 avril 2026 de 16h à 17h et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros. Ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.